Tout de suite sur Radio Pulse, nous allons découvrir les parcours regards. Ces parcours aux actions d'éducation artistique et culturelle ont pour ambition de valoriser la diversité des formes artistiques contemporaines et arts visuels et spectacles vivants, mais aussi les nouvelles écritures et les nouveaux langages artistiques auprès des jeunes en proposant des rencontres sur l'ensemble du territoire normand. À Alençon, ce programme est porté par la Luciole sur lequel s'est inscrite la mission locale pour permettre à un groupe de jeunes d'avoir une ouverture culturelle sur un projet ciblé. C'est donc un plaisir d'être allé à la rencontre de Marion Vanier, responsable des actions culturelles de la Luciole, ainsi que Sandrine, membre de la mission locale jeune du pays d'Alençon, qui sont venues nous présenter un peu plus en détail ce parcours regard.
Musique, danse, théâtre, cinéma, cirque, etc. Et donc nous, Scène de Musiques Actuelles, on a proposé un parcours musique sur lequel s'est inscrit la mission locale et les trois IFA cette année. Et on avait sollicité des artistes ornés qui sont accompagnés par la Luciole. C'est un duo de Mortagne, The Songwriters, qui ont mené des ateliers à la mission locale et aux trois IFA. Et en parallèle, il y a des conférences sur l'histoire des musiques actuelles par Mathieu et deux conférences sur des esthétiques ciblées qui auront lieu les 4 et 25 avril, encadrées par Bastien Cantillon. Et à la fin, les jeunes qui ont participé à ce parcours peuvent s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti au cours de toutes les étapes. Et c'est les CMEA, une association d'éducation populaire, qui encadre ce temps-là.
D'accord. Et c'est pour tous les jeunes ?
Oui, c'est pour tous les jeunes de la mission locale. Donc ça a été proposé par leur conseiller, en fait, qui avait ce parcours. Et donc les jeunes se sont inscrits volontairement sur, sur ce parcours. Voilà. Donc, et puis ça a plutôt bien fonctionné, hein, parce qu'on a eu 13 jeunes. Donc voilà. Et puis ils ont pu aussi créer un morceau avec la MAOF. Voilà, qui a été diffusé lors du concert de Songwriters, donc à la mission locale. Et puis il y a eu un petit vote, voilà. Donc voilà, non, c'est très, très sympa. Voilà. Ouais.
Et en plus de cet atelier sur les musiques actuelles, il y a eu quoi d'autre comme atelier dans ce parcours regard ?
Eh bien, on a eu les ateliers avec Songwriters, donc sur, ils ont évoqué la musique, ils ont fait des ateliers avec la MAOF, et puis après ils ont discuté du clip, enfin l'environnement, l'identité musicale qu'ils ont, enfin voilà, pour des groupes c'était important dans la musique en tout cas, et donc ils se sont arrêtés, puis il y a eu le concert de Songwriters. Voilà, donc c'est vrai que là les ateliers, les conférences, là on lieu après, après le parcours, quoi. Voilà, enfin, de musique avec Songwriters. Mm.
Est-ce que vous pensez que ça va développer des futures carrières dans la musique ?
Eh bien, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a du potentiel. Hein. Voilà ce qui en est ressorti sur les ateliers avec Songwriters quand ils ont créé leurs morceaux. Voilà, il y a des belles voix. Enfin, en fait, il y a des jeunes qui ont un potentiel réellement, quoi. Ouais. Ouais.
C'est la première fois que ce parcours regard a lieu dans l'Orne ?
Non, nous, ça fait, je crois que c'est la quatrième année qu'on participe. Donc l'année dernière, on était sur le théâtre. L'année d'avant, c'était le clip avec Tommy Marx, en partenariat avec la Luciole. Et l'année d'avant, on a du... Oui, théâtre aussi. Donc ça doit être la troisième année, je pense. Ouais, quatrième. Voilà. Ouais.
Et pour nous, à la Luciole, ça fait partie pleinement de nos missions de mener des actions culturelles. Et ça fait plusieurs années qu'on s'inscrit sur ce dispositif, le parcours regard, avec des établissements très divers. On a eu des fois, parfois des années où c'était des MFR. La mission locale s'était effectivement déjà inscrite sur ce parcours, des lycées. Là, il y a aussi les trois IFA. Donc ça dépend vraiment des années. Et l'objectif, c'est de permettre au public d'avoir un lien avec la culture, de pouvoir pratiquer, découvrir, s'exprimer. Et les jeunes sont aussi venus à la Luciole à des concerts pour vivre des lives dans une salle professionnelle.
Trop bien.
Et voilà, dans le parcours aussi, du coup, hein, les jeunes peuvent venir voir un concert à la Luciole. Donc c'est pris en charge. Voilà, donc c'est super aussi de leur permettre ça. Donc maintenant de saisir cette chance.
Voilà. Ils l'ont vu.
Alors là, il y en a une jeune qui l'a fait, qui a été voir un concert, et pour l'instant, j'ai pas de retour de d'autres jeunes qui souhaitent aller voir un concert à la Luciole.
Eh ben, merci beaucoup, Marion et Sandrine.
Merci, Simon.
Ensuite, nous avons eu le plaisir de rencontrer Mathieu Tessonnière, un intervenant dans ce parcours regard venu nous présenter son atelier sur les musiques actuelles. En plus de présenter l'histoire de ces musiques, il est venu avec les nouveaux instruments et technologies qui permettent de créer cette musique, tout en nous donnant d'ailleurs quelques conseils pour justement se lancer dans la musique.
Merci beaucoup Mathieu Tessonnière d'être avec nous sur Radio Pulse. Tu es à Alençon aujourd'hui pour une petite conférence. Alors je sais que t'aimes pas ce mot-là, mais comment on peut appeler ça ?
Une rencontre, un atelier, dans la mesure où j'ai amené pas mal d'instruments et où on va essayer de bidouiller, de tripoter un petit peu des choses, même si c'est ce que tous ces jeunes ont fait avec le groupe avec qui ils ont travaillé, l'idée c'est... à travers un regard un peu différent sur toutes ces technologies, d'arriver à comprendre comment la musique d'aujourd'hui, en fait, elle sonne parce que ces objets-là ont été fabriqués comme ils ont été fabriqués, et puis qu'en plus, la moitié du temps, on a détourné des objets sonores de leur première utilisation pour leur faire autre chose. Et du coup, c'est assez rigolo de le manipuler nous-mêmes pour s'en rendre compte.
Et alors, tu es musicien, tu es pédagogue, et pour cet atelier, qu'est-ce que tu as ramené comme matériel ?
Alors j'ai ramené plusieurs choses. J'ai ramené un synthétiseur. Ce synthétiseur-là, il est intéressant parce qu'il est très complet et il comporte notamment un vocodeur qui est un truc qui permet de transformer le son de la voix. Alors c'est pas de l'autotune, c'est une forme un peu ancestrale de l'autotune mais qui est assez rigolote et qui est marrante à manipuler avec un clavier. Et puis le synthétiseur permet de faire plein de choses, et il y a notamment ce qu'on appelle un step séquenceur, un séquenceur pas à pas, et un arpégiateur, enfin voilà, des choses qui permettent d'automatiser la musique et de rendre la musique automatique et répétitive. Et ça c'est un truc qui a beaucoup beaucoup changé à partir des années 80, et ça a beaucoup changé nos manières de faire et nos manières d'écouter la musique. À côté, j'ai pris un sampler qui est l'équivalent d'une MPC, qui est vraiment l'instrument le plus important des producteurs de hip-hop, de J. Dilla à Timbaland, en passant par Busta Rhymes, je ne sais pas qui encore. C'est vraiment avec ça qu'on a fabriqué les premières prods, les premiers instrus. Dès qu'on a pu arrêter pour faire des breaks, de passer deux vinyles à la suite en boucle, pour arriver à faire danser les breakers, et qu'on s'est dit que ça pouvait être intéressant de fabriquer de la musique un peu de cette manière-là, il a fallu inventer de nouveaux outils, et donc le SP404 est vraiment, comme la MPC, un des instruments les plus importants pour ces musiques-là. À côté, il y a un truc qui ressemble vaguement à une espèce de bombe, je pense. Enfin, je sais pas, moi, quand je sors ça dans un train, les gens, ils s'éloignent et j'ai de la place. C'est un synthétiseur modulaire, et ça, c'est rigolo parce que c'est le pendant ancestral de l'autre synthétiseur qui est avec un clavier. Et ce synthétiseur-là, il est... c'est beaucoup plus une école qui est l'école de la recherche électroacoustique, de la musique concrète et d'une partie de la musique savante au XXe siècle, mais qui a été utilisée dès les années 60, notamment par les Beatles. Qui ont utilisé les premiers un synthétiseur Moog qui fonctionnait un peu sur ce mode-là. Et puis j'ai amené aussi avec une petite boîte à rythme qui, pareil, qui est un objet qui était à la base pas fait du tout pour faire des musiques électroniques, mais pour s'accompagner en tant que guitariste, mais ça a été détourné par les premiers producteurs de musique électronique. Puis j'ai ramené une guitare électrique parce qu'il y a des choses très intéressantes sur la possibilité de pas savoir et de faire quand même. Et en fait, c'est vraiment absolument l'instrument qui a été fait pour faire du punk, parce que c'est un instrument où, même si on sait bien que la guitare, il faut savoir en jouer pour en jouer, mais en fait, quand tu sais pas en jouer, si tu mets tes doigts et que t'appuies, à un moment donné, il se peut que ça fasse un truc. Et voilà, je vais montrer comment on peut jouer de la guitare à un doigt, et tout le monde va jouer de la guitare à un doigt, et tout le monde... Tout le monde va faire du punk et du grunge en 4 secondes. Et donc, c'est pour rappeler que c'est un des trucs très importants dans les musiques actuelles, enfin dans les musiques populaires au XXe siècle, et surtout depuis la fin des années 80, c'est la possibilité d'être autodidacte. C'est-à-dire que bah, aujourd'hui, les gens qui jouent de la musique, 9 fois sur 10, c'est des gens qui ont appris en faisant de l'essai-erreur, tu vois. Ouais, t'essayes un truc, ça marche pas. Si ça marche pas, t'essayes autrement. T'as plus vraiment de prof, t'as des tutos sur internet, tu vas voir plein de gens, tu discutes avec des potes. T'es plus inscrit dans une école de musique avec un sensei et un prof, un maître que tu suis à la lettre. Je sais bien de quoi je parle parce que je suis professeur en conservatoire, donc du coup, je vois bien un peu cette autre manière de faire. Et du coup, cette manière-là, qui est celle de l'expérimentation, où tu fabriques du savoir. Par l'essai et par l'expérience, et c'est assez cool de se dire que, enfin, c'est des choses qui existent encore et même beaucoup, parce que c'est un peu l'inverse des modèles d'enseignement qu'on a, où généralement voilà, on apprend ce que les profs ont décidé qu'il fallait qu'on sache, et on doit le réciter, mais on n'en a pas forcément une expérience très sensible. Après, souvent c'est des concepts abstraits, c'est des mathématiques ou c'est de la philo, mais voilà, là ça permet de fabriquer du savoir par l'expérience, et c'est plutôt pas mal aussi.
Du coup, toi, dans tes cours, comment tu fais pour justement faire apprendre la musique à quelqu'un ? Qu'est-ce que tu conseillerais d'ailleurs pour commencer à apprendre à jouer d'un instrument ou de la musique ?
Ah ! Oui, alors c'est ça. Et ben, c'est peut-être le truc le plus important, c'est que pour savoir faire, il faut faire. Il faut pas savoir, il faut d'abord faire, et une fois que tu fais, après, bah, tu vas te fabriquer un savoir, et puis faire ça à plusieurs. La notion de collectif et le fait d'échanger avec les autres, c'est super important. C'est comme ça que tu crées quelque chose où tu apportes ce que toi t'as trouvé, et où tu récoltes aussi ce que les autres ont trouvé. Donc du coup, t'as un peu plein de profs, mais t'as plein de prismes différents. T'es pas enfermé dans une seule vision. Enfin, tu partages ta vision et tu la construis et elle grandit avec les autres. Donc voilà, pour faire, faut faire, et faut faire à plusieurs. Le savoir musical, c'est quelque chose qui est très particulier, parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas, alors qu'il y a des choses qu'on sait qui sont vraiment techniques et très précis, mais il y a quand même des fois où on veut fabriquer un truc et puis en fait ça sonne pas. Et je crois que si on n'accepte pas ça, c'est compliqué de faire de la musique.
Et justement, est-ce que tu saurais définir à quel moment on joue juste ?
Ouais, pour ça je me réfère aux danseurs, parce que les danseurs, ils parlent de justesse. C'est rigolo, enfin, tu es un danseur, pas le premier mot auquel tu penses, juste. Même les comédiens au théâtre, on parle beaucoup de justesse. Et en fait, c'est pas du tout la même chose que le terme juste qu'on emploie quand on est musicien. Quand on est musicien et qu'on dit est-ce que tu joues juste, c'est est-ce que la note est la bonne, à la bonne hauteur, à la bonne fréquence, dans la bonne gamme. Alors que dans la danse et dans le théâtre, c'est une histoire de proposition et une histoire de propos, d'ancrage, d'incarnation, de quelque chose que tu fais à fond et honnêtement. Et en fait, du coup, comme nous, le mot justesse, on l'utilise pour dire autre chose en musique, du coup, on ne peut pas l'utiliser pour parler de ça, de cette idée d'être à fond dans son propos, d'être honnête. Et donc, du coup, il faut qu'on utilise ces mots-là, honnête, je ne sais pas, impliqué. Et voilà. Et donc, du coup, on manque un peu de mots. C'est assez intéressant de voir que voilà, le fait de se calibrer sur un truc de hauteur très précis nous empêche de réfléchir à ce que c'est que de jouer juste, voilà, de passer de la récitation à une performance et quelque chose où tu te donnes pleinement, quoi.
L'atelier s'appelle Une histoire des musiques actuelles. Alors, question toute bête, mais par quoi elle commence, cette histoire ? Par quel genre de musique ?
Et ben, en fait, c'est le gros problème. Et pour répondre à cette question, du coup, moi, j'ai fait le truc dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, je pars d'aujourd'hui et je redescends jusqu'où je peux redescendre dans le temps que j'ai. Et je remonte et je redescends et je remonte. Et je finis très souvent, quand je dois reculer vraiment très loin dans le temps, on débarque et on arrive soit au début du 19e, enfin, fin du 19e. en France, en Europe, ou bien beaucoup plus tôt en Afrique. Parce que évidemment, la musique qu'on a aujourd'hui est le résultat de plein de métissages et de mélanges de plein d'endroits et de plein de trucs dans le monde. Donc du coup, on peut revenir jusqu'au premier lithophone dans les grottes avec les hommes de Néandertal. Mais en fait, est-ce que c'est ultra pertinent qu'on revienne jusque-là ? Du coup, voilà, l'idée, c'est de partir de Haya, à peu près, et de voir jusqu'où on peut redescendre et remonter, redescendre, remonter, suivant des choses qui sont un peu importantes. Bébé veut du sale, allo, 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 million dollars, bébé tu veux ça. J'suis gang, hors game, boy ne joue pas bang, bang, bang. J'suis gang, hors game, boy ne joue pas bang, bang, bang. Bla, 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 pouki. Disons que s'il y a quatre choses que j'aimerais, quatre choses vraiment importantes, c'est la place des producteurs depuis les années 80 et qu'on a inventé cette idée de home studio où tout le monde peut faire de la musique depuis chez soi. Alors ça a commencé tranquillement dans les années 80, aujourd'hui c'est vraiment le cas parce que même avec une tablette on peut faire des prods très efficaces. C'est la notion de bruit aussi qui est super importante et qui fait vraiment partie de toutes les esthétiques. Alors que dans la musique, notamment savante, jusqu'au début du XXe siècle, le bruit était quelque chose qui était très très proscrit, et à part 2-3 zinzins, personne s'autorisait à utiliser des sons qu'on dit désagréables pour fabriquer de la musique. Or aujourd'hui, la saturation sur les guitares, c'en est le premier exemple. Donc voilà, le travail des producteurs, le bruit, le travail technologique des sociétés technologiquement avancées, enfin en tout cas l'électrification, et le métissage est ce qui reste des musiques africaines noires, dont 90% des musiques qu'on fait aujourd'hui et qu'on écoute, même si on s'en rend plus compte.
90%?
Ah ouais, facile. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 justement, il y a un moment donné, on fait une sorte d'atelier où on parle justement de cette notion qui est vraiment complètement de base dans les musiques africaines, qui s'appelle la polyrythmie, où en fait tu peux battre une pulsation, tu sais, c'est un battement régulier, et puis comme tu tapes dans tes mains quand tu danses, sauf que tu peux battre un truc, mais tu peux en battre un autre qui a rien à voir, et les deux marchent.
Les deux marchent ensemble.
Ah ouais, et ils marchent ensemble, ils marchent séparément, ils marchent ensemble en même temps. Et ça, pour nous, occidentaux, ça reste quand même un peu mystérieux. Sauf qu'en fait, quand on décompose ce truc-là, qu'on l'analyse et qu'on voit par où il est passé dans le monde et dans le temps, bah en fait aujourd'hui on le retrouve chez Rihanna comme chez les Stooges comme chez les Smiths, enfin tout le monde l'utilise quoi, enfin et en fait on se rend même plus compte de ce truc là tellement on baigne dedans, mais c'est les restes de cette idée de polyrythmie en fait.
Dans cet atelier tout le monde va jouer de la musique?
Bah écoute, je sais pas trop, on va voir. Je sais pas exactement combien ils vont être. Et puis après, tu sais, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui ont envie d'essayer plein de trucs, d'autres qui sont beaucoup plus timides, et puis d'autres qui au début veulent pas trop, puis après posent plein de questions. Donc moi, j'ai une sorte de canevas, mais après ça, généralement, je m'adapte beaucoup à ce que le public, les jeunes, me demandent ou ont envie de faire, quoi.
Est-ce que tu penses qu'on apprécie plus la musique quand on en joue un peu ?
Je ne sais pas si on l'apprécie plus, mais on peut l'apprécier différemment. On parle de ça aussi au début, on parle de cette idée d'écoute ciblée et d'arriver à se concentrer sur des choses très précises dans la musique, ou de pouvoir écouter la musique de manière très distante. Steve Albini, qui est un super grand producteur de rock, qui est mort il y a 2 ans ou l'an dernier, très souvent, quand il finissait les mix des groupes qu'il enregistrait, à un moment donné, il prenait le journal et il lisait le journal. Et souvent, il s'excusait parce qu'en fait, les groupes ne comprenaient pas du tout ce qu'il faisait, quoi. Il est en train de bosser, puis le mec prend le journal, il boit un café en écoutant la musique. Et il disait, ah non, je suis désolé, c'est fait exprès. Je me force à faire autre chose parce qu'en fait, 9 fois sur 10, votre musique, les gens vont l'écouter de plein de manières différentes. Donc du coup, je fais exprès de me reculer, de me mettre loin de cette musique en faisant autre chose, pour voir s'il n'y a rien qui me choque quand je l'écoute en fond, et s'il n'y a rien qui me choque, c'est que mon boulot de mix, il est bon et il est bien fait. Et je trouve que c'est un truc intéressant sur les différentes manières d'écouter. Comme tu ne vas pas regarder une sculpture de David de la même manière que tu vas regarder un clip, tu n'as pas la même paire d'yeux, tu n'as pas les mêmes lunettes, en fait, nous, on a plein de paires d'oreilles différentes suivant ce qu'on veut écouter, quoi.
Merci beaucoup, Mathieu.
Merci à toi.